Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, une émission à la frontière de l'humour et du savoir dans laquelle mon fidèle complice Stéphane Bern va de découverte en découverte, de surprise en surprise.
Il était gay, Néron.
Bonjour Stéphane, l'histoire
bonjour.
C'est fou, hein.
C'est fou, mais pas autant que vous, Mathieu. Bonjour Mathieu, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour 2 heures d'histoire, le sourire aux lèvres. Autour, comme chaque après-midi, de 3 personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui avaient un point en commun. Aujourd'hui, 3 femmes, 3 sœurs qui ont vécu dans l'ombre de leur illustre aîné. Je vous raconte d'abord l'histoire de Marie-Sophie en Bavière, la sœur cadette de Sissi, à l'occasion de la parution d'un livre écrit par Lorraine Kaltenbach. Vous savez, la sœur d'une personne qu'on connaît bien autour de cette table.
La sœur de Clémentine.
Sissi. Enfin, Sissi...
Je me suis demandé à un moment pourquoi vous me reposiez la question et j'ai compris ensuite que c'était pour faire le jeu de mots. Oui. Il est excellent.
Voilà,
est très bon.
Oui. Parce que Marie-Sophie était la sœur de Sissi.
Voilà. Ah bah oui, non mais... Oui.
Non. Si. Puis je vous parlerai ensuite de Pauline Bonaparte,
oui,
la sœur cadette de Napoléon. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une Middleton, mais pas celle qui a eu la chance d'épouser le prince William, non, celle qui avait un faux cul. Pippa Middleton.
Celle qui avait un faux cul?
Bah oui, le jour du mariage.
Mais j'ai enquêté là-dessus, elle n'avait pas un faux cul.
Elle avait un faux cul.
Non, vous êtes sûr?
Bah bien sûr.
Ah mais moi j'ai vu que ça avait été démenti. Je voulais pas.
Mais par qui? Par l'intéressé?
Ah mais non. Mais
en tissu, pas un faux cul permanent.
Oui,
d'accord.
Qu'est-ce qu'un faux cul permanent?
C'est une sérieux, bon, il y en a plein sur Europe 1. Mais non, je parle de...
Oui, mais nous parlons de cette faux cul, alors à tout niveau, effectivement.
Non.
Pippa Middleton.
Enfin, elle a bien caché son jeu.
La sœur de Catherine Middleton. Mais pourquoi vous avez l'air de. Ça m'ennuie quand vous connaissez mieux le sujet que moi, Stéphane.
Oui,
c'est mon portrait.
Sais.
Bon,
mais
vous interviendrez.
Vous
interviendrez à qui me mieux dans ce portrait. Voilà, vous nous donnerez un éclairage informé. Avec nous en studio, Stéphane, 3 célébrités, 2 journalistes qui sont aussi des showmen et avec qui chaque lancement peut se transformer en truculente scénette, notamment quand on parle gastronomie.
Bonjour, monsieur Tapenade. Oh.
Vous êtes cousin avec monsieur Enchoyade?
Oh là là, c'est une émission d'humour aussi, il faut
oui,
le rappeler.
Sûr,
bonjour
oui.
Olivier Pouls.
Bonjour les amis.
Oh là là,
vous êtes en forme, Olivier?
Pas d'accent aujourd'hui.
Pas d'accent. Aujourd'hui, le saumon fumé.
Oui, et puis... Plus largement, la technique du fumage, d'où nous vient-elle? Comment s'est-elle perfectionnée? Et qui a amené le saumon fumé dans nos assiettes? Pour les fêtes, mais pas que d'ailleurs. Mais je vous raconte ça tout à l'heure. Et puis je vous donnerai même une petite technique pour fumer le saumon vous-même. Tiens, c'est moins cher.
Sans fumer, on peut le faire en appartement ou vous déconseillez?
Non, ça peut se faire si vous avez de quoi ouvrir la fenêtre quand même. Hein.
Et la Berry.
Donc si vous avez une fenêtre chez vous, vous pouvez faire cette recette importante. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas de fenêtre dans leur domicile.
Alors
ça,
que vous
ça
l'avez vu, encore. Le président nous l'a rappelé. Il faut aérer.
Bien sûr,
j'ai vu sur Insta, j'ai vu des emojis. Oui. On nous dit qu'il faut aérer les pièces.
Surtout si vous faites fumer votre saumon. Ah, on vit dans une belle époque. Stéphane, qui est avec nous également. Regardez à votre gauche.
Oui, alors j'ai à ma gauche Clémentine Portier-Kaltenbach. La sœur de Lorraine.
Et oui.
Alors, on va parler d'un enfant caché.
Enfant caché qui a défrayé la chronique au 19e parce qu'on racontait que le grand peintre Eugène Delacroix aurait été le fils caché de Talleyrand. Que faut-il penser de cette histoire? Ça m'a vraiment titillé. Je suis allée chercher. Vous allez voir que c'est assez pittoresque.
Mais on sait en tout cas que Delacroix avait un faux cul. En revanche, ça j'ai enquêté, et ça c'est sûr. Vous apprendrez beaucoup de choses aujourd'hui.
C'est un détail que je
dis. Non, mais l'émission, on apprend des choses. Et puis, nous reviendrons sur l'origine d'un objet du quotidien avec David Castello-Lopez. Bonjour David.
Bonjour. On va parler des origines du post-it.
J'adore ça, j'en consomme énormément.
Mais moi aussi. J'ai pris l'avion pour savoir d'où ça venait.
Ah, vous avez pris l'avion?
Pour aller où?
Pour aller aux États-Unis comme toujours.
Moi j'aime les tout petits qu'on met dans les pages des livres de toutes les couleurs pour faire marque-page.
C'est très mignon,
c'est vachement bien.
C'est très mignon. Enfin Stéphane, aux alentours de 5h-10, vous tiendrez prêt, vous savez le sort qui vous attend. Affronter Clémentine en combat singulier, votre arme, l'érudition, nous jouerons à Bern to be alive. Mais tout de suite, les amis, découvrons notre premier personnage du jour, une sœur qui a vécu dans l'ombre de son illustre aîné. Stéphane nous raconte Marie-Sophie en Bavière, la sœur de Sissi.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle fut tout à la fois reine des deux Siciles, figure du Paris de la belle époque, l'égérie des écrivains et une femme à abattre. Elle est surtout une héroïne éclipsée par sa sœur légendaire. Stéphane Bern nous raconte la plus romanesque des sœurs de Sissi, Marie-Sophie en Bavière.
Oui, partons pour la ville de Gaète, à l'automne 1860. Depuis les hauteurs de la citadelle, Marie-Sophie Amélie von Wittelsbach, 19 ans, contemple avec désolation les ruines fumantes du dernier bastion de son royaume des deux Siciles. L'an passé, la petite sœur d'Elisabeth de Wittelsbach, connue sous le nom de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, Sissi, a quitté sa Bavière natale pour épouser François, l'héritier du plus vaste royaume de la péninsule italienne. Mais contrairement à sa sœur, l'impératrice d'Autriche, Marie-Sophie a revêtu la couronne au plus mauvais moment. Et oui, la situation politique est loin d'être au bout fixe dans la future Italie. Depuis 10 ans, le vent de l'unification n'en finit plus d'ébranler les vieilles monarchies. À la tête de cette conquête historique, Victor Emmanuel II, roi du Piémont, qui entend bien régner sur la botte tout entière. Alors, à peine Marie-Sophie s'est-elle installée sur le trône de Naples, qu'elle et la famille royale en sont chassées par des hordes ennemies. Réfugiée à 70 km de là, elle compte bien se battre pour la préservation de son titre. Hors de question pour Marie-Sophie de se barricader derrière des murs de la citadelle. Pendant que son époux François II désespère, elle ne peut rester sourde aux souffrances de ceux qui luttent pour la sauvegarde de son royaume. C'est donc une reine téméraire qui troque sa crinoline pour un pantalon bouffant et bien à l'aise dans sa tenue militaire, passant en revue ses troupes. Et ce n'est pas tout. La voilà qui allume la mèche des canons avec le feu de sa cigarette, qui visite les blessés dans des hôpitaux de fortune, qui se faufile à cheval entre les bombes. Toute la presse européenne se fait l'écho des actions valeureuses de cette toute jeune souveraine. Son attitude exemplaire lui vaut d'ailleurs le surnom d'héroïne de Gaète. Et certains n'hésitent pas à la comparer à Jeanne d'Arc. Pour une fois, Marie-Sophie ferait presque de l'ombre à sa célèbre grande sœur qui, pendant ce temps-là, peine à lutter contre le protocole viennois. Après 200 jours d'un siège destructeur, les souverains napolitains n'ont plus le choix. Ils doivent déposer les armes. La ville n'est plus qu'un monceau de gravats. Les troupes de Victor Emmanuel ont gagné. Le royaume d'Italie est proclamé. Alors nos deux têtes découronnées rassemblent peu de biens qu'il leur reste et partent s'exiler à Rome. Là-bas, le pape Pie IX leur offre sa protection. Mais le répit est de courte durée pour Marie-Sophie. La capitulation du roi des deux Siciles n'a pas suffi aux partisans de l'unité qui rêvent de voir le couple Bourbon-Wittelsbach quitter la péninsule pour de bon. D'autant que le courage dont Marie-Sophie a fait preuve pendant le siège de Gaète n'a fait qu'attiser leur haine envers elle. Si bien qu'un jour, voyant que décidément on pose beaucoup de regards scandalisés, Marie-Sophie apprend que des petits malins se sont amusés à faire circuler des photographies obscènes sur lesquelles on la reconnaît. À Rome, à Turin et même à Paris, sang bleu et cardinaux rouges ont trouvé dans leur boîte aux lettres des clichés de la reine complètement nue. Il s'agit en fait de grossiers montages où l'on croit voir l'ancienne reine en train de batifoler avec un jeune homme qui n'a pas les traits de François II. Cette humiliation est insupportable pour Marie-Sophie qui se pose 1000 questions. Et si les commanditaires de cette grossière farce savaient ? Car Marie-Sophie n'est pas tout à fait innocente. Elle est folle amoureuse. Oui, mais pas de celui à qui elle a pourtant juré fidélité. Il faut dire qu'elle n'a jamais été heureuse en ménage. 2 ans après son union avec François, aucun héritier n'a pointé le bout de son nez. Il se pourrait même que le mariage n'ait jamais été consommé. Oui, ce pauvre roi détrôné souffrirait d'un phimosis.
C'est impossible. Vous avez... oui. Mais, vous êtes un... mais c'est vous qui leur donnez le phimosis, Stéphane.
Non, c'est moi qui opère, c'est différent. C'est une difficulté médicale qui l'empêcherait d'engendrer au fond. C'est un frein, si vous voulez, du prépuce qui ne laisse pas passer le gland. Voilà, ah oui. En gros, pardon, ah oui, mais
d'être
aussi
précis. C'est bien d'être précis sinon on ne comprend pas pourquoi.
Voilà, donc ça freine. Alors, avide d'amour et de plaisir, Marie-Sophie est tombée dans les bras d'un autre, Emmanuel de Lavaïs-Châteaubourg, un jeune Parisien enrôlé parmi les zouaves pontificaux. Comprenez que ce bel amant vient à la rescousse du Saint-Père afin de contrer la menace que représentent les défenseurs de l'unité italienne. Ces deux-là se retrouvent dans le palais Farnèse, une merveille de la Renaissance, hein, en plein travaux. Un contexte tout à fait pratique pour les amants. Ils peuvent s'adonner sans crainte au plaisir de la chair, alors que le bruit des marteaux résonne. Mais à force de tenter le diable, ce qui devait arriver arriva.
Aïe.
Après une entrevue délicieuse un soir de carnaval, Marie-Sophie découvre qu'elle est enceinte. Et si l'on en croit la rumeur, son mari comprendra bien vite que l'enfant à naître n'est pas de lui. Une seule solution s'offre à la jeune Bavaroise. Elle doit regagner sa terre natale pour obtenir l'aide des siens. Après un conseil de famille houleux, chez les Wittelsbach, c'est le branle-bas de combat. Alors que la presse s'inquiète de l'absence prolongée de la jeune reine à Rome, on répand une version officielle. La pauvre Marie-Sophie est pulmonaire depuis qu'elle a inhalé de la poudre à canon pendant le siège de Gaète. Elle a donc besoin de respirer le bon air de la Bavière, loin de l'atmosphère étouffante de Rome. Durée de cette cure ? Un peu plus de 9 mois. Enfin, si l'on écoutait Marie-Sophie, cette cure se transformerait en déménagement. Voilà qu'elle annonce à son clan que plus jamais elle ne retournera auprès de son mari. Elle en a assez de tous ces faux semblants protocolaires. Or, si la reine fait annuler son mariage et qu'en plus on découvre qu'elle a accouché d'un enfant né de la cuisse gauche, c'en est bel et bien fini des espoirs de revoir un jour François II sur son trône de Naples et des deux Siciles. Un roi sans reine et sans dauphin, voilà du pain béni pour cet usurpateur de Victor Emmanuel de Savoie. Sissi doit intervenir. Elle est la seule qui puisse trouver les mots justes pour raisonner sa jeune sœur. Et les allers-retours de l'impératrice pour aller voir Marie-Sophie auraient coûté cher aux contribuables plusieurs centaines de milliers de florins. Oui, forcément, qui dit impératrice dit voyage de luxe, mais ces heures de négociation ne sont pas vaines. Quelques semaines après avoir donné naissance à une petite fille, Marie-Sophie réapparaît à Rome au bras de son sinistre époux. La mort dans l'âme, elle a accepté d'abandonner son enfant pour répondre à son devoir de reine. Pourtant, les dés sont déjà jetés depuis longtemps. François II ne régnera plus jamais sur les deux Siciles. Alors que le Saint-Siège tombe aux mains de Victor Emmanuel de Savoie, il est obligé de fuir l'Italie pour de bon. Après quelques mois de colocation avec Sissi et François-Joseph à Schönbrunn, Marie-Sophie s'installe durablement à Paris. Et ce n'est certainement pas un hasard, Mathieu. Je vous l'ai dit, son grand amour, Emmanuel Lavaïs, est originaire de la ville Lumière. Et quelques années plus tôt, c'est à lui que Marie-Sophie a confié le fruit de leurs amours interdites. Elle s'appelle Daisy. 10 ans après cette séparation déchirante, la petite fille continue de grandir sous la grisaille parisienne. La capitale française sera donc le lieu de leur retrouvaille secrète. C'est aussi un lieu de rencontre pour notre héroïne qui devient une figure incontournable de la belle époque. Et les aventures de jeunesse de la Bavaroise n'en finissent plus d'inspirer les écrivains. Sous la plume de Marcel Proust, son voisin, Marie-Sophie devient même un personnage à la recherche du temps perdu. La vie passe ainsi. Et voilà qu'un beau matin, Marie-Sophie, 59 ans, apprend dans le Figaro que le royaume d'Italie est en deuil. La veille au soir, 3 balles ont transpercé le corps du roi Humbert Ier. Le fils de Victor Emmanuel montait dans sa voiture au sortir d'une remise de prix. L'assassin affirme avoir agi par haine de l'institution monarchique. Marie-Sophie ne peut réprimer un petit sourire coupable. 40 ans après, la voilà vengée des usurpateurs qui l'ont détrônée à Gaète.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Marie-Sophie en Bavière, nous avons le plaisir d'accueillir celle qui lui consacre plus qu'une biographie, une véritable enquête, Lorraine Kaltenbach. Bonjour Lorraine.
Bonjour.
Bonjour Lorraine Kaltenbach. Nous aussi, nous avons enquêté, ça n'a pas été simple, nous pouvons l'affirmer. Vous êtes la sœur d'une impératrice, celle de notre émission. Et oui, et votre aînée vous a fait beaucoup de tort, vous a éclipsé. Et oui, j'ai nommé Clémentine Portier-Kaltenbach. Mais vous êtes aussi l'auteur du secret de la reine soldat, l'extraordinaire sœur de Sissi. Une biographie de Marie-Sophie en Bavière qui vient tout juste de paraître aux éditions du Rocher. La reine soldat, c'est le siège de Gaète, j'imagine, qui lui vaut ce surnom.
Et Marcel Proust, qui était son petit voisin, très fasciné par la reine soldat, il disait qu'en la croisant, on avait envie de se mettre à genoux dans la poussière. Il l'a vue toute son enfance et c'est lui qui l'a nommée ainsi.
Marie-Sophie, elle est quand même beaucoup moins connue que Sissi. Moi, par exemple, je ne la connaissais même pas. Comment vous expliquez, alors qu'elle a une vie tout aussi dingue, si ce n'est plus?
D'abord parce que vae victis, ce ne sont pas les vaincus qui écrivent l'histoire. Et ensuite, parce qu'elle va devenir vraiment l'icône des anti-unitaires et donc la femme à abattre. C'est là qu'elle va subir un certain nombre de scandales. Et du même coup, la même va vouloir un peu vivre dans l'ombre et se cacher. Et se cacher d'autant plus qu'elle mène cette double vie pendant 25 ans où elle va cacher à tout le monde qu'elle voit sa fille naturelle. Donc elle restera discrète. Mais malgré tout, lorsqu'elle meurt en 1925, le New York Times lui consacre une page entière. Elle a été très connue, très adulée jusque dans les années 20. Et maintenant, effectivement, tout le monde l'a oubliée.
Mais certains ont fait d'elle la Jeanne d'Arc du 19e siècle. Vous approuvez cette comparaison? C'est vrai qu'elle était battante, elle était téméraire, elle était puis elle défendait une cause quand même. Qu'est-ce qui la rend héroïque? C'est son courage ou son dilemme finalement assez moderne entre amour et raison, entre raison d'État et puis pulsion intime?
À mon avis, les deux. Elle est très courageuse physiquement. Avant même le siège de Gaète, un jour, un corps de garde suisse au service de la maison de caserne du Palais Royal doit être dissous. Donc il y a 300 types vociférants qui se précipitent sur les grilles du palais. Son roi de Marie lui s'éclipse, fuit comme on fuit l'échafaud. Et Marie-Sophie affronte toute seule ces hommes. Elle est très courageuse physiquement. Et je pense ensuite qu'elle a effectivement incarné, pour les femmes de cette époque, un modèle inouï. L'impératrice Eugénie est bluffée par Marie-Sophie. Toutes les femmes européennes se cotisent pour lui envoyer des bijoux. Des sculptrices américaines sont fascinées par cette Zénobie moderne. C'est vraiment une femme qui marque ses congénères.
Alors, on va continuer à parler de nos sœurs éclipsées par leurs aînés. Et mon Dieu, comme on compatit, Charlotte. Oui. Et de Marie-Sophie en Bavière en particulier, avec notre invitée, Lorraine Kaltenbach, sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ces sœurs qui ont été éclipsées par leurs aînés. Marie-Sophie en Bavière est la sœur de Sissi, l'impératrice. On en parle avec notre invitée Lorraine Kaltenbach qui lui consacre une biographie. Dans ce livre, vous dépeignez Marie-Sophie aussi rebelle que Sissi, mais surtout, ça nous a intéressé, autrement plus vivante et charnelle.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a une empreinte familiale commune. Elles sont très sportives, elles sont très rebelles, elles détestent toutes les deux l'étiquette, elles sont passionnées de politique, mais la comparaison s'arrête là. Ensuite, il y en a une qui fuit le bonheur, qui fuit le plaisir, qui se pèse 3 fois par jour pour vérifier qu'elle n'a pas dépassé ses 50 kilos et qui n'aime pas manger, alors que sa petite sœur, elle, va connaître le plaisir dans les bras d'un homme, est une femme qui, chaque année, n'a pas de plus grand plaisir que lorsque ses anciens sujets lui envoient des paquets de macaronis et du fromage de caserne. C'est une femme qui, en plus, qui a été une mère rivée à ses enfants, enfin, qui avait un instinct maternel autrement plus développée que Sissi. Ça a été une grande amoureuse. Elle a aimé un homme, elle a aimé ses enfants, elle a aimé ses sujets. Elle a été d'une très grande fidélité dans ses attachements.
C'est sûr que quand vous choisissez plutôt d'être reine des deux Sicile, il vaut mieux aimer les pâtes. Alors,
c'est pas jeune quand vous remontez le niveau comme ça. Ça me fait plaisir.
L'une des grandes révélations justement de votre livre, Lorraine, concerne la double vie de la reine Marie-Sophie de Naples et l'existence d'un enfant caché, Daisy. Vous êtes bien placée pour nous en parler, n'est-ce pas, Lorraine, parce que l'amant parisien de Marie-Sophie fait partie de votre famille.
Tout à fait. Vous savez qu'en 1936, une nièce de Sissi, la comtesse Valerzelarich, va révéler que cette reine de Naples aurait peut-être eu un amant, un aristocrate belge. Mais on ne sait pas si c'est vrai, car la comtesse Larich, qui est une femme très renseignée, mais aussi beaucoup inventée, notamment pour se faire de l'argent. Mais nous savons dans la famille depuis toujours que cet amant a bel et bien existé, qu'il est français et qu'il était notre cousin.
Ah bon? Et vous avez connu Daisy? Non, elle était...
Alors, notre grand-mère a très bien connu Daisy, a poussé avec elle, a passé une partie de ses vacances avec elle lorsque Daisy n'était pas à Posenhofen avec sa mère ou en Normandie avec sa mère, oui.
Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette Daisy?
Cette Daisy est morte de la tuberculose à peu près 24 ans. Mais elle habitait à 500 mètres, c'est ce que je révèle dans cet ouvrage, c'est qu'elle habitait à 500 mètres de sa mère et qu'elle est morte dans les bras de sa mère, la reine. Voilà, et ce sont nos aïeux qui sont occupés accessoirement des obsèques. Donc on avait une mine, enfin plusieurs fils d'Ariane, plusieurs documents conservés par Clémentine d'ailleurs, et qui m'ont permis de vraiment me lancer dans l'enquête et arriver avec des preuves irréfragables de l'existence de cette Daisy et de pouvoir dévoiler son identité complète.
Mais en fait, donc vous portez, c'est comme un secret de famille en quelque sorte, mais vous êtes habité par le personnage de Marie-Sophie depuis toujours.
Depuis toujours.
Comme un peu Clémentine par Fouquier-Tinville. Mais
exactement.
Bon,
ça,
et d'autres bourreaux de l'histoire. Non, je plaisante.
Et Gracchus Babeuf.
Mais c'est vrai que c'est un personnage qui vous habite depuis très longtemps.
Depuis toujours. Et moi, je n'avais jamais songé pendant longtemps à faire cette enquête. Et puis, ça m'a piqué un jour, il y a 3 ans. Voilà.
Oui, oui.
Et ça a été délicieux.
Comment s'entendaient les deux sœurs? Puisqu'on parle, on voit votre complicité avec Clémentine, mais comment s'entendaient l'impératrice Élisabeth et sa sœur Marie-Sophie?
Alors, pour partie, vous pourriez mieux répondre que moi, parce que je crois qu'un certain nombre de dames de cour autour de Sissi ont raconté qu'elles ne s'entendaient pas, qu'elles avaient une rivalité autour de l'équitation. Mais moi, en la suivant à Paris, Sissi venait constamment voir sa sœur Marie-Sophie, et j'ai l'impression que toute cette petite tribu de Possier était très inséparable. Me semble-t-il, c'est un peu la sœur aînée, Hélène, aînée, qui était un peu à part, mais les autres n'avaient pas de plus grand plaisir que de se voir. Et moi, je pense que ces deux femmes qui s'entendaient très bien.
Ça avait l'air d'être une femme sympathique. Je ne sais pas si on peut le dire comme
oui,
en ces termes.
Moi, je crois.
Mais
oui,
ça
oui.
Avait vraiment
elle est
une
plus
personne...
vivante, elle ouais. est moins névrosée. C'est la moins névrosée, toutes
oui,
les filles.
La plus normale.
Vraiment, vraiment.
Mais en revanche, elle a été une victime aussi. Alors, on a parlé de la victime de...
Le montage.
Mais surtout, c'est le photomontage porno.
Oh, oui,
parce que c'est quand même... C'est la première victime de ce genre de procédé.
C'est la toute première victime. Et puis moi, je pense qu'on n'a pas encore tout à fait abouti dans cette affaire. Parce que pour illustrer ce fait divers, on montre des photos qui ont été faites 30 ans plus tard. Mais ces vraies photos, on ne sait pas où elles sont. Or, moi, d'après mon enquête, il est bien probable que le zouave qui figure sur ces photos soit notre cousin. Enfin, là, ce serait un peu long à raconter, mais à mon avis, figurait sur ces photos notre cousin. Voilà, une photo qu'il avait faite chez le photographe officiel du pape Pie IX. Voilà.
Rassurez-nous, votre cousin est habillé sur la photo.
Mais non.
Mais non,
c'est une scène de débauche où elle est dans un bain avec des sexes d'hommes. Enfin, voilà, c'est un truc.
Mais c'est votre cousin qui a posé pour.
Non, il n'a pas posé. En revanche, comme tous les oifs pontificaux, il a fait une photo chez le photographe officiel de Pie IX. Or, on sait qu'un retoucheur de ce studio photographique a été impliqué dans le scandale et ses fausses photos montées.
D'accord.
Et au même moment, notre cousin démissionne alors qu'il venait de rempiler.
Oui.
Ah bah, mais à mon avis, les photos existent quelque part.
Et si vous disposez de ces photos, Stéphane est prêt à mettre un paquet pour les avoir dans sa collection personnelle, dans son cabinet de curiosité.
C'est un peu le voici de l'époque, historiquement.
Il était plein de charme, notre cousin.
Ah oui.
Il avait plus de charme, il était beaucoup plus séduisant que François II.
Oui, c'est
pas difficile, évidemment, d'après ce que vous nous avez dit.
Visconti, paraît-il, rêvait de porter Marie-Sophie en Bavière à l'écran sous les traits de Greta Garbo. À votre avis, qui pourrait.
Alors, un Visconti pense à Greta Garbo. Joseph Losey voulait la Calas. Marie-Sophie a été incarnée par les Italiens, par Ornella Muti, qui à mon avis fait beaucoup trop italienne. Moi, j'ai ma Marie-Sophie, c'est Rebecca Warder, la jeune pensionnaire du Théâtre Français. C'est elle, c'est absolument elle.
Donc en fait, il faudrait refaire un film maintenant sur Marie-Sophie.
Mais parce que ce qui manquait à cette héroïne, c'est la grande passion pour s'inscrire dans l'histoire. Or là, elle a une histoire d'amour magnifique. C'est une grande histoire d'amour. Mais les Italiens, un jour, vont s'en saisir. C'est évident.
Mais justement, en Italie, est-ce que Marie-Sophie, elle est plus célèbre que Sissi ou
Elle est très célèbre dans le Mezzogiorno. Vous avez que les deux prénoms les plus donnés, c'est Marie et François. Et pour eux, c'est leur Scarlett O'Hara. C'est voilà, l'héroïne du monde et du clan qui a perdu. Elle est adorée.
Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, le sud de l'Italie se réapproprie l'histoire des Bourbons pour se moquer de tout ce qui est au nord de Rome et notamment de la Savoie, enfin des rois du Piémont, des Piémontais et des rois de la dynastie de Savoie. Enfin bref, toujours est-il que votre livre va sans doute contribuer à interpeller comme ça les réalisateurs.
Certainement.
Ça s'appelle Le secret de la reine soldat, l'extraordinaire sœur de Sissi, paru aux éditions du Rocher. Vous restez avec nous parce que donc cette sœur aînée qui vous éclipse va continuer de le faire. J'ai nommé Clémentine.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Clémentine Portier-Kaltenbach. Et ce n'est plus un secret. Lorraine Kaltenbach, qui révèle le secret de la sœur de Sissi dans le livre, est aussi avec nous cet après-midi.
Cette émission, ça va s'appeler Secret d'histoire.
Mais oui, c'est vrai, parce qu'au fond, secret, c'est une mise en abîme des sœurs rivales.
C'est vrai,
et
c'est magnifique
et voilà.
Comme programmation.
Alors, rivale ou pas
On leur invente une rivalité.
Si, non, parce bah... qu'elle va vendre plus de livres que vous.
Ah, bien sûr, mais c'est tout le mal que je lui souhaite. Moi, mon dernier bouquin est sorti en plein confinement. Donc, de toute façon, c'est un enfant caché, mort-né, mon dernier livre.
Justement, vous nous racontez un autre secret de famille, l'enfant... On va réussir à les fâcher. L'enfant caché de Talleyrand.
Appelez-moi détritus. Non, mais écoutez, c'est un vrai problème, ces histoires d'enfants gâchés. Oui. Et c'est vrai que... Imaginez la Daisy dont vous venez de nous parler, Stéphane. Sa mère, finalement, elle a réussi à avoir un autre enfant avec son mari parce qu'il a fait opérer son phimosis. Mais cet enfant est mort en bas âge. Donc cette femme, elle était reine déchue, mais elle avait une fille qu'elle aimait, qui avait survécu, qui était quelque part et qu'elle ne pouvait pas élever parce qu'elle était reine. C'est quand même extrêmement cruel et c'est un cas de figure qui est totalement 19e. Enfin, maintenant, au 20e siècle, il y aurait plus ce genre de problématique. On assumerait sans doute plus facilement cet enfant. Et comment faire quand vous êtes un père pour être sûr qu'un enfant est de vous ou pas? Parce que, ou alors, si vous
maintenant, il y a des tests de paternité.
Ben voilà. Mais à l'époque, si vous ne ressemblez pas du tout, vous avez quand même lieu de vous interroger. Puis alors, si pour des questions d'agenda, vous n'étiez pas dans le coin au moment de sa conception, c'est encore plus problématique. Alors justement, pour prétendre que Charles Delacroix ne serait pas le père biologique du peintre, il y avait un premier indice assez probant, l'opération délicate qu'il dut subir le 13 septembre 1797, soit 7 mois avant la naissance d'Eugène. Et de quoi s'agissait-il, messieurs? Ça va vous parler.
Encore
il s'agissait, pas loin, de lui ôter une volumineuse tumeur pesant environ 32 livres. Alors 32 livres, ça Mathieu, ça fait 16 kilos.
Et qui était placé où?
Aussi mal que possible pour un homme, pour faire simple, une tumeur de 16 kilos sur un testicule. On appelle
non, alors ça
un...
Techniquement, je vous arrête, parce que si vous avez 16 kilos qui pend à cet endroit-là,
exactement,
vous
monsieur,
bouger,
ça s'appelle un sarcocèle. N'hésitez pas à vous cultiver. Alors, on sait, de façon certaine...
Je ne vais pas
certaine,
vous louper dans le quiz, vous, tout à l'heure.
C'est de façon certaine. Parce que le chirurgien militaire, figurez-vous, qui a effectué cette opération, il en fait la publicité, il publie une brochure accompagnée de schémas, et sans aucun respect ni souci de la confidentialité, il indique le nom de son patient, Charles Delacroix. Vous imaginez ça, Mathieu Noël et Stéphane Bern, un sarcocèle de 16 kilos qui a été brillamment opéré à l'hôpital du Val-de-Grâce? Non, c'est quand même ahurissant. Alors, ce Charles Delacroix, donc, c'est un ancien député de la Marne à la Convention, ministre des Relations extérieures du Directoire, qui est remplacé dans ses fonctions par Talleyrand, et nommé en compensation représentant de la République française auprès de la République batave, comprenez, en Hollande. Donc le 26 avril 1798, son épouse, la citoyenne Delacroix, met au monde à Charenton le futur peintre Eugène Delacroix. Il naît donc 7 mois après son opération d'un sarcocèle. Donc inutile de vous dire que au moment où il aurait dû honorer son épouse
oui,
avec lesté de 16 kilos au mauvais endroit, ça devait être quand même un peu compliqué. Alors, du coup, si le père de Delacroix était Talleyrand, parce qu'il est un familier des Delacroix, on a pu dire qu'il venait la voir elle, qu'ils auraient cohabité un moment au ministère rue du Bac pendant que son mari était déjà parti en poste en Hollande. Après, bon, ben, le père Charles Delacroix, il meurt en 1805, Eugène à ce moment-là a déjà 7 ans, on ne va pas lui révéler que ce n'était pas son vrai père. Bon, Talleyrand ne va pas aider marier, ça ferait un vrai scandale, donc on ne dit rien. Bon, possible, tout ça. Et alors certains font valoir qu'il avait exactement, d'abord, que l'enfant Eugène Delacroix ressemblait pas du tout à ses frères et sœurs, et il avait le même nez retroussé que Talleyrand, un même dessin des lèvres à la fois amer et un peu méprisant, la même finesse du sourire, une même courtoisie hautaine, une hauteur de dandy, ce grand air très aristocratique. Alors, en plus de ça, on a toujours dit que Delacroix avait toujours bénéficié d'un mystérieux protecteur. Et par exemple, à 24 ans, il peint un tableau, Dante et Virgile aux enfers, que la critique éreinte littéralement. Et on ne sait pas pourquoi, il y a un défenseur absolument tonitruant de ce tableau, c'est Thiers. Or, Thiers était le protégé de Talleyrand. Donc, on a pu dire à l'époque que Talleyrand avait fait protéger son fils par son protégé, Thiers. C'est Thiers qui va lancer Delacroix. C'est Thiers qui usera de son influence pour lui obtenir des commandes officielles. Alors, voilà. Bon, alors, donc, est-ce qu'il est son fils ? Bon. Il y a un certain nombre de gens qui disent « pas du tout, ok, il avait le nez retroussé, mais la mère de Delacroix aussi, elle avait le nez retroussé, il avait un air un peu aristocratique, mais il fréquentait beaucoup les milieux aristocratiques dont il a reçu de nombreuses commandes. En revanche, aucune trace de son nom dans les souvenirs de Talleyrand, dans ses propres souvenirs à lui, il n'a jamais mis les pieds à l'hôtel de Saint-Florentin. Enfin, voilà, il n'aurait pas du tout été question de Talleyrand chez Delacroix, ni de Delacroix chez Talleyrand. » Donc, pas un instant, il semble que Delacroix n'ait douté être le fils de Charles Lacroix. Il faudrait avoir recours à l'ADN, hein, évidemment, maintenant. Mais voilà l'anecdote.
On a les deux corps ou pas ? On a les deux corps.
Ah ben oui, bien sûr. Mais enfin, faudrait la vue. Vous croyez que les familles ont envie qu'on aille chercher l'ADN de Delacroix et Talleyrand pour savoir s'il leur était le papa de l'autre ? En tout cas,
il y a une
anecdote.
Non, mais en tant que monsieur patrimoine, il a le pouvoir de le faire.
Ah ben, vous nous ferez ça, Stéphane, dans un secret d'histoire. En tout cas,
on n'exhume pas comme ça.
Non, bien sûr. Heureusement, l'ADN ne peut pas devenir le roi des cimetières. En tout cas, Degas raconte l'anecdote suivante. Un jour, on dit à Delacroix : quel dommage que vous n'ayez pas été hier à l'ambassade. Vous auriez vu Talleyrand causant avec Wellington. Quel tableau ! Et Delacroix répondit « Pour un peintre, ce n'est qu'un homme en bleu à côté d'un homme en rouge. » Il n'avait pas l'air plus ému que ça, le père Delacroix.
Merci beaucoup, belle Clémentine.
Belle histoire. Vous restez avec nous, Clémentine. C'est un duel déjà déséquilibré en temps normal quand Stéphane ne doit affronter que Clémentine Portier-Kaltenbach. Que va-t-il donc se passer aujourd'hui face à deux Kaltenbach ? Quiz sanglant en perspective.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Il a souvent perdu ces derniers temps, mais vous sentez ce que je sens, Clémentine ?
Un goût de revanche, un goût de combat. Un goût de sang.
Oui, bon, t'emballe pas non plus, car aujourd'hui, Stéphane, face à vous, non pas une, mais deux Kaltenbach. Que le cauchemar commence. Jouons à Bernie to be alive, notre célèbre quiz. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Commençons en évoquant André Malraux, l'auteur de La Condition humaine, l'hommage poignant à Jean Moulin. Eh bien, André Malraux a fait de la prison dans sa jeunesse pour un vol de mobylette. Vrai ou faux ? Ah, tout de suite, on attaque bille en tête. Hein. Allez. Est-ce que vous connaissez bien Malraux, Stéphane ?
Il a fait de la prison, mais pour vol d'œuvres d'art.
Oui, et c'est pas une mobylette, je crois pas.
Réfléchissez, Stéphane.
Alors, attendez, je vous donne.
Il a fait de la prison. Mais je suis pas sûr que ce soit pour une mobilette.
Vous venez de répéter quand même ce que vient de dire Clémentine.
Oui, mais parce que je savais qu'il avait fait de la prison.
Oui, vous saviez
et
ça.
Et j'ai même m'embarqué comme toujours en disant « Oui, c'est vrai, parce que je savais qu'il avait fait de la prison. » Et après, elle me dit « Attention, œuvre d'art, mobilette. Est-ce que la mobilette est une œuvre d'art ?»
Ça, c'est une vraie
Surtout,
question.
Je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de mobilettes. Il a fait de la prison. Est-ce que ce n'est pas en 21 ? C'est au lendemain de la guerre de 14.
Non, alors je dirais non. Ça devait... ouais. Ce n'est pas pour une mobilette.
Vous répondez ?
Non.
Faux.
Vous avez gagné !
Bien aidé par Clémentine, vous avez la bonne réponse. Il a en effet effectué un temps en prison pour avoir pillé un temple khmer au Cambodge. Écrivain sans le sou, il a alors 23 ans, il fera un an de prison. Sa femme organise une pétition signée par des intellectuels comme Gide, Mauriac ou Aragon en sa faveur. Je cite, en faveur de ceux qui contribuent à augmenter le patrimoine intellectuel de notre pays. Pour sa défense, il a déclaré, vous ne croyez tout de même pas que je vais travailler. Question numéro 2. Pour vous, Clémentine, et pour vous, Lorraine, vous jouez ensemble. Qui a dit, à propos de Lamartine, je cite, « C'est un esprit eunuque, la couille lui manque, il n'a jamais pissé que de l'eau claire. » Flaubert, Balzac ou Gérard Depardieu ?
Flaubert, Balzac, je trouve que ça ressemble plus à Balzac. Je trouve qu'il y a un côté un peu corps de garde qui ne semble pas aller à Flaubert. Encore qu'il était capable d'être très acide. Mais moi, je dirais plutôt Balzac.
Plutôt Balzac.
Qu'en penses-tu ?
Oui, plutôt Balzac.
Elles se sont concertées. La réponse est tombée, Stéphane.
Vous avez perdu.
Elles ont perdu, Stéphane. Elles ont perdu. Peut-être que vous allez gagner.
C'est pas du pari.
Cachez vos joies, Stéphane.
Non, mais
c'était Flaubert.
Il essaie d'avoir le triomphe modeste, mais ne vous inquiétez pas qu'à la fin, il laissera exploser sa joie.
Flaubert.
Alors, Flaubert a dit ça. C'est un esprit eunuque. La couille lui manque. Ça, pour moi, c'est plutôt Gérard
Depardieu. Pas Flaubert, disons, la couille lui manque.
Il n'a jamais pissé que de l'eau claire. Flaubert, à propos de Balzac, Flaubert a dit. Quel homme eût été Balzac s'il eût su écrire ? Ça, c'est quand même très, très, très élégant.
Il n'était pas toujours aussi bon. Hein.
Oui. Question numéro 3, les amis, elle est pour vous, Stéphane. Dans le 11e arrondissement de Paris, on peut encore voir distinctement 5 dalles témoins de l'endroit où a vécu Lénine en 1909. Vrai ou faux ?
Je ne sache pas qu'il ait habité le 11e arrondissement.
On est dans le 11e arrondissement.
Il est possible qu'il n'ait pas été...
Des dalles ?
5 pour être précis, Stéphane.
5 dalles.
Moi, je pense qu'il paye, il veut vous avoir avec les dalles, les 5 dalles de l'ancienne voie gallo-romaine qu'on a trouvée dans Paris. Qu'est-ce que ce serait que des dalles dans un appartement où aurait vécu Lénine ?
Moi, je dirais non. Non
mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ?
Moi, j'aurais dit non, naturellement. Mon intuition, c'est non.
Votre intuition, et qui est aussi validée
mais
par
Clémentine.
Vous ne ferez
pas porter le chapeau, Stéphane. Hein.
Alors, découvrons la réponse.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné, Stéphane, mais Lénine a bien vécu à Paris de 1909 à 1912. On peut bien voir en effet 5 dalles sur la rue située au croisement de la rue de la Roquette et de la rue de la Croix-Faubin. Mais c'est là qu'il y avait la prison de la Grande Roquette des condamnés à mort. La guillotine y était installée à l'entrée de l'édifice. Et si vous y allez, sachez qu'entre 1851 et 1899, 200 personnes y ont été exécutées. Stéphane, c'est une autre mémoire qu'on célèbre là-bas.
C'est bien de la célébrer.
Il habitait rue Marie-Rose dans le 14e.
Il n'y a pas des petits bouts de points pour Clémentine, là ? Non, de questions.
Vous déposez un recours et vous avez tout à fait raison. Je vais vous dire probablement... qu'à l'unanimité de moi-même, à la fin de ce quiz, effectivement...
Pour une seule raison, c'est comme vous avez perdu la première question,
non,
pour avoir sa cinquième...
Les œuvres
pour
ça,
oui, non, pour mais
arriver à la cinquième question,
non, non, ça va, c'est...
J'en merci ai une, Lorraine, je... vas-y, mordis l'œil.
Lorraine qui a vite compris que le quiz était bidouillé. Question numéro 4 pour vous, Madame Kaltenbach. Goscinny et Uderzo avaient bien raison. Les Gaulois étaient de grands chasseurs de sangliers. Vrai ou faux ?
Ben, je crois que c'est faux.
C'est faux.
À la réponse, là. Vous avez vu Stéphane ce que c'est que des historiennes, des vrais ? Ça passe pas 3 heures comme ça à épiloguer. Oui, mais la claque, on a la réponse.
Oui, parce que...
Vous avez gagné !
C'est gagné. Bravo, mesdames, aucun
ils élevaient
historique.
Des cochons, mais
oui,
ils ne...
Exactement.
Ah, mais ça, vous le saviez, Stéphane.
Oui, bien sûr, parce que j'ai fait une émission sur les Gaulois.
Ah, oui, mais c'est pour ça.
Et on réparait...
Et dans vos fiches, c'était écrit.
Non, mais on faisait en sorte de gommer les idées reçues.
Mais Stéphane, attendez, il ne faut plus te dire... Non, j'ai lu la dernière thèse sur l'alimentation dans la Gaule romanisée, et bien sûr.
Aucun fait historique ne peut le démontrer. Effectivement, les Gaulois chassent peu, ils élèvent des porcs et de la volaille, ils cultivent l'orge et le blé. Ils sont même meilleurs agriculteurs que les Romains. Ils savent fertiliser les cultures et inventent la charrue tractée par 4 bœufs. Il y avait 2-1, mais j'ai décidé de changer la règle en cours de route. Il y aura finalement 2 partout. Et donc, une question. Et l'arithmétique n'a pas sa place.
Oui,
dans notre
je sais,
émission.
Mais
non, elle n'a pas sa place. Moi, je ne suis pas un matheux.
Pourquoi vous obstinez à dire que je perds ?
Pas du tout. Pas du tout. Ah ben, si, mais on va voir, vous n'avez pas encore perdu.
Oui,
Stéphane.
Ça, il a une prime pour ça, Stéphane. Ah, vous n'avez pas encore compris.
Je reçois effectivement une prime en cas de défaite de Stéphane. Question numéro 5. Alors, attention, c'est la question de rapidité. Mais on attend que j'ai énoncé les 3 propositions. Seulement, à la fin des 3 propositions, vous me dites la 1, la 2 ou la 3. Le 22 mai 1957, un bombardier B-36 a lâché accidentellement une bombe nucléaire au Nouveau-Mexique. Que s'est-il passé ? 1. Ça a fait un gros trou. 50 ans plus tard, on en a profité pour y construire un centre commercial. 2. La bombe atomique n'était pas armée. Donc, ouf, il ne s'est rien passé. Ou 3. Cela a permis la naissance d'un site archéologique amérindien.
3.
2. Moi, je pense qu'il ne s'est rien passé, elle n'était pas armée.
2, allons-y.
Ça, c'est le son qui signifie que vous avez perdu, Stéphane. Et que Clémentine et Lorraine Kaltenbach ont remporté ce quiz. Il ne s'est rien passé. Stéphane, vous avez répondu quoi à cette question ?
Moi, j'ai rêvé.
Expliquez-nous un petit peu.
Que ça fasse un trou.
Vous avez rêvé
et
trop
que
fort,
là. Là-dessus, on se dit, tiens, on va aller creuser. Oui. Et on a trouvé un site archéologique.
Ou à côté de la bombe atomique. Site archéologique amérindien, magnifique.
Non, mais Stéphane, c'est touchant en même temps, cette ingénuité.
Je dirais même que c'est bouleversant.
Ah, voilà,
ce
une bombe atomique, un petit trou-trou, on trouve un site aztèque.
On aurait dû balancer plus de bombes atomiques, on aurait trouvé plein de sites archéologiques.
Vous regardez trop Secrets d'Histoire, je crois, Stéphane.
Oui. Alors, il ne s'est rien passé, les amis. Seuls les explosifs d'amorce sont explosés, mais ça n'a pas suffi pour déclencher la charge nucléaire de 10 mégatonnes. La bombe avait été larguée par accident sur la ville d'Albuquerque.
Albuquerque, c'est la ville
heureusement, de Breaking Bad.
Eh ben, heureusement que ça n'a pas explosé, mais vous aviez déjà entendu parler de cette histoire de Brett Homie?
Si, moi j'en avais entendu parler.
Mais ce qui est étonnant, c'est que j'aimerais bien avoir l'information, car je suis curieux. On l'a désamorcé, on l'a enlevé, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, c'est quand même très, très bizarre.
Je ne sais pas, mais pour moi c'est un souvenir de je sais tout. Non, les vieux, j'ai vu ça, c'est la bombe au Mexique qui n'explose pas.
En tout cas, ce qui compte, c'est que Stéphane a une nouvelle fois perdu. Et ça, c'est comme important pour mes comptes. Victoire de Lorraine, qu'on remercie Lorraine Kettenbach. Je rappelle votre livre enquête, Le secret de la reine soldat, l'extraordinaire sœur de Sissi dont on a parlé, qui vient de paraître aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre. L'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter, autour chaque après-midi de trois personnages que les siècles séparent, mais qu'un point commun relie. Aujourd'hui, Mathieu, des sœurs qui n'avaient pas forcément le sourire.
Je salue le jeu de mots et la modernité de la référence. Oui, Stéphane, aujourd'hui, nous rendons hommage à ces sœurs qui ont vécu dans l'ombre de leur illustre aîné.
Après Marie-Sophie en Bavière, je vais vous raconter le destin d'une sœur de qui a dû composer avec la personnalité assez écrasante de son frère, un certain Napoléon Bonaparte. Vous allez voir, ça n'a pas été simple de se faire une place pour Pauline. Quant à vous, Mathieu, vous nous parlerez d'une sœur de plus contemporaine.
Dans la famille Middleton, je demande la sœur de Kate, Pippa. Que devient celle qui fut classée à une époque par le Times comme une des 100 personnalités les plus influentes au monde? Eh bien, un peu comme le tableau de Matisse, luxe, calme et volupté. Le calme en moins, peut-être.
Alors, le calme reviendra avec nos chroniqueurs, évidemment. Quoique, David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines d'un objet de notre vie quotidienne, le post-it, c'est ça ?
Oui, tout à fait, qui a quand même changé la vie de bureau, hein, et que tout le monde connaît. Donc j'ai pris l'avion pour aller savoir d'où ça vient.
Oh, et moi, pas plus tard que ce matin, j'ai mis sur le frigo un post-it. Pense à acheter du saumon fumé. Olivier Pouls est avec nous pour nous parler de cette tradition fumer le saumon. D'où ça vient ? Jusqu'à quand ça remonte, cette histoire ?
Oui, et puis même sur un post-it, je pourrais vous marquer la petite recette pour fumer dorénavant votre saumon ou autre chose d'ailleurs à la maison, et c'est promis sans avoir de procès avec vos voisins.
Fumage au bois de hêtre, évidemment.
Oh, c'est pas mal,
évidemment.
Je sais pas, je vois toujours ça écrit sur les. Oui. Plus c'est cher, plus il est écrit fumé au bois de hêtre.
Plus il y a de précision, surtout sur le type d'arbre qui a été utilisé.
Exactement. Le mot de la fin de cette émission reviendra comme chaque jour.
Oui, parce qu'on est un peu à la bourre, là.
Ah, on est à la bourre, d'où vient cette expression,
Stéphane? Justement, c'est une expression pas très chic, mais ça ne nous empêchera pas de nous demander ensemble d'où ça vient. On l'utilise quand on est pressé. Oh, je suis à la bourre, là, excuse-moi.
Ben, j'ai envie de dire que parmi toutes les expressions que vous avez explicitées pour nous depuis le début de l'année, c'est la plus courante, finalement.
Oui, bien sûr. Ouais.
Plus que
faut pas courir un peu, oui.
Mais tout de suite, découvrons l'histoire de celle qui a vécu un tout petit peu dans l'ombre de son frère. Il faut dire que son frère, c'était Napoléon. Stéphane Bern nous raconte Pauline Bonaparte.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Dans la famille Bonaparte, je demande Pauline. Pauline Bonaparte, que son frère, un certain Napoléon, surnommait la petite païenne. Un frère qui l'a éclipsé, l'histoire qu'il a oubliée. Stéphane Bern lui redonne vie et nous raconte Pauline Bonaparte cet après-midi.
Nous voilà sous le soleil méditerranéen d'Antibes, où le clan Bonaparte vient d'élire domicile, alors que le fils prodige, Napoléon, est pris par son poste de général en chef d'Italie. Madame Mère, elle, est très occupée. Au château de Salé, où elle réside, elle est entourée de trois jeunes filles qu'il lui faut absolument marier. Alors, dans son salon, c'est un balai incessant de soupirants qui n'ont Dieu que pour sa cadette, la belle Pauline. Notre héroïne vit bientôt sa première idylle. L'heureux élu est un journaliste, Stanislas Fréron, 25 ans de plus que Pauline. Mais attention, l'ombre du grand frère protecteur n'est jamais loin. Napoléon aime bien ce Fréron. Il est riche, c'est un point essentiel. Oui, mais voilà, alors qu'il est prêt à marier sa sœur, le futur empereur apprend avec stupeur qu'on lui a menti. À Paris, Fréron s'affiche avec une autre femme, enceinte de leur troisième enfant. En plus de ça, il aurait transmis la syphilis à la jeune Pauline.
Oh non.
Pas de ça pour la petite sœur préférée de Nabulio. Oui, c'est son surnom. Il le jure. Lui vivant, Pauline ne reverra plus jamais cette canaille de Fréron. Et qu'elle sèche ses larmes. Un époux respectable lui a été trouvé. Pauline épousera donc le général Leclerc, l'un des hommes de confiance de son frère. 9 mois plus tard, ou presque, car né rose chez les Leclerc, Pauline a mis au monde un petit garçon prénommé Dermide. Et qui a choisi ce joli prénom ? Eh bien, c'est tonton Napoléon, bien sûr, qui est aussi le parrain de l'enfant. Mais cette vie tranquille de mère et d'épouse, c'est pas tellement la tasse de thé de Pauline. On raconte même qu'elle en échappe dans les bras de multiples amants. Sauf qu'il va falloir faire une croix sur ses passions interdites. Oui, pour servir les intérêts de son frère, Pauline doit dire adieu à sa vie parisienne. Elle est sommée de plier bagages pour suivre son mari envoyé en expédition à Saint-Domingue. Là-bas, il est chargé de mater la révolte conduite par Toussaint Louverture, un ancien esclave devenu un général un peu trop ambitieux pour Napoléon. Cette transatlantique est absolument épouvantable pour Pauline. À bord du vaisseau amiral, on est bien loin du confort de l'hôtel particulier de la rue de Courcelles. Mais une fois le pied sur la terre ferme, elle voit bien que sa galère ne fait que débuter. L'île merveilleuse est à feu et à sang. Impossible donc de lézarder à l'ombre des cocotiers. Désespérée au milieu des ruines fumantes de Port-au-Prince, elle reçoit ces mots de la part de son frère. Songez que les fatigues, les peines ne sont rien quand on les partage avec son mari et que l'on est utile à sa patrie. Si Napoléon voulait réconforter sa sœur, c'est raté. D'autant que la tragédie l'attend au tournant. Une épidémie de fièvre jaune sévit sur l'île et décime une bonne partie des troupes. Le pauvre Leclerc, qui n'a jamais supporté la chaleur, ne fait pas long feu et trépasse à son tour. Voilà Pauline en veuve et pleurée, qui n'a plus qu'à faire demi-tour pour regagner le continent. Mais Pauline est si belle, si jeune. C'est une véritable arme diplomatique pour son frère, le premier consul. Ce serait un gâchis que de la laisser veuve. Alors Napoléon cherche à nouer de nouvelles alliances prestigieuses. Et en quelques semaines, voilà que Pauline est remariée à Camille Borghese, le prince héritier de l'une des familles les plus illustres de Rome. Pas peu fier d'avoir épousé cette beauté sans pareil, le prince Borghese s'amuse à narguer les anciens prétendants de sa belle. D'ailleurs, il faudrait immortaliser la grâce de Pauline pour que l'histoire retienne qu'elle était sa femme. Alors Camille, fait appel à Antonio Canova, l'un des artistes les plus en vogue à l'époque. Le sculpteur vénitien a pour mission de reproduire à la perfection les traits fins de la princesse. Il propose donc à son modèle de la représenter en Diane, la déesse de la chasse. La future Diane lui rit au nez. Pauline, maniant l'arc et la flèche, oh, c'est bien mal la connaître. Non, cette amoureuse se rêve en Vénus. C'est ainsi que Canova devra la glorifier. Mais lorsqu'on lève enfin le voile sur cette statue de marbre blanc, la bonne société romaine crie au scandale. Car le sculpteur ne s'est pas contenté de tailler un simple buste. Non, non, il s'est appliqué à modeler un corps entier, langoureusement étendu sur un lit et... j'ai oublié de vous le dire, à demi nu.
Je l'avais deviné, Stéphane.
Mais enfin, cette pauvre lascive et cette poitrine apparente, est-ce bien approprié pour une femme du rang de Pauline ? La princesse a-t-elle vraiment osé poser dans le plus simple appareil ? La question torture les esprits des années durant, sans que jamais la réponse ne soit connue. Il semblerait que l'artiste et sa muse aient emporté le secret dans leur tombe, ce qui n'empêche pas Talleyrand, l'infatigable ministre qui servit tous les régimes, de distiller une petite anecdote à ce sujet. Après avoir admiré l'objet du scandale, Talleyrand, très inquiet pour la santé de la princesse, ne peut s'empêcher d'interroger Pauline. Comment a-t-elle pu poser de longues heures en tenue d'Ève dans le froid de l'atelier ? Réponse de l'intéressé. Oh, il y avait du feu dans la cheminée. Et déduction du diable boiteux, elle était bel et bien nue. Malgré ses éclats savoureux, la vie n'est pas tendre avec Pauline. Son fils, le jeune Dermide, est emporté par une fièvre. Quelques semaines plus tard, elle doit faire bonne figure à Notre-Dame de Paris et porter l'immense traîne de Joséphine alors que Napoléon revêt enfin la couronne qu'il a tant convoitée. Dans sa robe de soie blanche à manches courtes, la pauvre est transie de froid. Rappelons que nous sommes le 2 décembre. À nouveau, la douleur de la jeune mère passe après les ambitions mégalos de son grand frère. Mais la consolation vient avec les histoires d'amour. Son Altesse impériale, Pauline, a peu d'affinité avec son mari, Camille. Mais elle enchaîne les passions charnelles avec Auguste de Forbin qui devient son chambellan, puis avec Félix, le séduisant maître de musique et de chant. Grâce à lui, les vocalises en tout genre envahissent la maison. Puis c'est le coup de foudre avec Jules de Canouville, un jeune officier de 22 ans, qui finit malheureusement la tête arrachée par un boulet de canon. Mais le vrai grand amour de Pauline, n'est-ce pas plutôt son frère, Napoléon ? Elle est la seule de la fratrie qui l'accompagne jusque dans la défaite, la seule qui rend visite à l'empereur déchu lors de son exil sur l'île d'Elbe. Pauline Bonaparte, esprit libre et indépendant, ne fut fidèle qu'à un homme, son frère Napoléon, premier du nom.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer de parler de cette étonnante Pauline Bonaparte, nous sommes avec la romancière et essayiste Florence de Baudus. Bonjour.
Bonjour.
Allez, on parle de la sœur cadette de Napoléon avec vous dans un tout petit instant sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre et nos sœurs éclipsées par leurs célèbres aînés continuent. On parle de Pauline Bonaparte avec notre invitée Florence de Baudus, Stéphane.
Oui, Florence de Baudus, vous avez publié Pauline Bonaparte, princesse borghèse, parue chez Perrin. Vous pointez dans les premières pages de votre livre le paradoxe d'une reine aussi célèbre qu'inconnue. À quoi vous l'attribuez finalement ce paradoxe ?
Ben, vous savez, qu'est-ce qui fait qu'on connaît des personnages dans l'histoire ? Ce sont les hauts faits militaires, les hauts faits politiques, un génie littéraire, artistique, pictural, musical, ou alors une mort tragique, un mari exceptionnel. Rien de tout cela pour Pauline. Pauline n'a rien qui pourrait la rendre célèbre, si ce n'est qu'elle est la sœur cadette du Français le plus célèbre encore aujourd'hui. Malgré tout, lorsque vous prononcez le nom de Pauline Borghèse, vous verrez que les regards s'allument et que tout d'un coup, il y a une imagination qui se met en route, sauf que personne n'est capable de dire quoi que ce soit sur la vie de Pauline.
Vous dites les regards s'allument, ils s'allument peut-être pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'il y a juste cette image de sa nudité magnifiée par le sculpteur Canova. C'est autre chose en fait, Pauline Bonaparte, quand on creuse un peu.
Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que des amants, elle en a eu. Qui n'en avait pas à l'époque ?
Mais ne leur jetons pas la pièce. Hein.
Voilà.
Qui sommes-nous, surtout pour le faire ?
C'est vrai aussi qu'après le directoire qui avait magnifié l'érotisme en tout genre, Napoléon voulait une cour irréprochable. Donc les femmes étaient priées de voiler leur poitrine, d'oublier la transparence des robes. Enfin, tout ça, c'était une façade, une vitrine. Personne n'a élevé la chasteté chez les Bonaparte au rang de vertu. Donc Pauline a eu des amants. Mais moins que ceux qu'on leur prête, mais elle en a eu un certain nombre.
Mais je vous cite, sa correspondance montre pourtant une personnalité complexe, mélange de mesquinerie et de générosité, de malaise permanent et d'énergie surprenante, de tendresse et d'indifférence, de caprice et de raison. Elle était contrastée.
Qui n'est pas contrasté ?
Oui.
Vous imaginez d'abord une enfance qui est faite de pauvreté, d'errance due au contexte politique, et puis tout d'un coup, boum, la fortune s'abat sur la famille Bonaparte. Au moment où justement Pauline, à 16 ans, est une beauté absolument magnifique, et où tous les hommes, en tout cas les hommes de Marseille, se jettent à ses pieds, donc il y a de quoi perdre la tête.
C'est la plus belle des sœurs ?
Oui, c'est la plus belle. Caroline avait un charme indéniable, mais elle avait un corps, elle était, paraît-il, assez petite, elle n'avait pas de cou. Elisa était anguleuse, elle était... Peut-être qu'aujourd'hui, Elisa serait très belle, mais elle était jugée trop maigre à l'époque. Pauline, c'était la perfection. Et ça, tout le monde, ses ennemis, ses amis, tout le monde considère qu'elle était vraiment absolument splendide.
Mais les autres ont fait des beaux mariages et eu des rôles politiques. Elle a pas eu sa place au pouvoir. Ça tient à quoi ? Au fond, elle a été mal mariée parce que le pauvre général Leclerc, puis après, c'est vrai que Camille Borghèse, il a son nom surtout à un service de Sèvres, en fait, qu'il a commandé.
À une villa, tout de même.
Et à une villa, oui.
Oui, mais alors, quand vous dites que les sœurs ont fait de beaux mariages, Félix Bacciocchi, excusez-moi, ce n'était pas non plus le mariage rêvé. Bon, quant à Murat, il n'avait rien de plus que Leclerc à l'époque où Caroline l'a épousé.
Il est devenu roi de Naples, quand même.
Oui, mais enfin, ça, on est en 1808 quand il devient roi de Naples. Au moment où il l'a épousé, c'était pas grand-chose. C'est vrai qu'il avait flanqué tous les députés dehors au 18 Brumaire. Donc, ça, c'était une action d'éclat.
Oui, c'est vrai.
Mais elles avaient, ce que n'avait pas Pauline, elles avaient l'ambition chevillée au corps. Elles avaient le goût du pouvoir, toutes les deux. Pauline, absolument pas. Elle se fichait royalement, de ce qui pouvait advenir. Si, tout de même, lorsqu'elle est partie pour Saint-Domingue, contrainte et forcée, elle s'est dit qu'elle allait peut-être être souveraine. Et ça lui plaisait, parce que les Bonaparte avaient en commun un certain goût pour la gloire. Donc elle se disait que son mari, Leclerc, allait connaître la gloire militaire et qu'on parlerait d'elle.
Ça s'est mal passé.
Et puis patatras.
Alors racontez-nous, parce que Stéphane, je sais, s'intéresse beaucoup à cette parenthèse à Saint-Domingue. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Est-ce qu'elle a connu des plaisirs là-bas ?
Les plaisirs qui ont été racontés l'ont été par Fouché, par la duchesse Abrantès et surtout par un journaliste immonde qui s'appelait Antoine Métral et qui a dit pique-pendre en 1825 en pleine époque royale de restauration.
Donc Faribault.
Expliquant qu'elle elle s'était offert absolument toute la population masculine, noire et blanche, surtout noire d'ailleurs, de l'île. Moi, je préfère croire, et c'est beaucoup moins drôle, bien sûr, les médecins et les officiers qui approchaient Leclerc, qui ont tous été unanimes pour saluer et son courage physique d'abord, parce qu'il faut se rappeler le contexte. Alors, qu'elle ait été frivole, qu'elle ait voulu prendre... Elle avait une manière de vivre... à l'insulaire, c'est-à-dire qu'elle aimait que les petits esclaves lui apportent son verre de lait, que d'autres lui caressent la plante des pieds, enfin je ne sais pas. Elle aimait regarder les danses un peu érotiques.
On paye cher pour la réflexologie.
Oh là, j'ai eu très peur du début de cette phrase.
Elle a vécu dans la terreur tout de suite. Tout le monde était malade, tout le monde se battait, tout le monde mourait.
Oui. C'était pas si drôle que ça.
Et quand Leclerc a voulu la faire partir, elle a dit non, je reste, je n'abandonnerai pas mon mari.
Ah oui, non, mais là elle s'est bien mouée. Je pense qu'elle s'est montrée surtout fidèle à un seul homme, c'est son frère. C'est au fond le seul véritable amour de sa vie.
Chaque fois qu'elle voulait être fidèle à un homme, il mourait ou il s'en allait. C'est quand même un manque de chance aussi.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai que peut-être que Bonaparte, au départ, a représenté le père qu'elle n'a pas connu, parce que son père est mort quand elle avait 4 ans. Donc une espèce de borne, un phare. Mais lui, c'était pas du tout comme ça qu'il la voyait, surtout au début. Lui, il voulait construire son système familial, il voulait que son clan domine l'Europe et peu importer les sentiments personnels des uns et des autres.
Mais est-ce qu'il l'aimait ? Et parce qu'on a le sentiment qu'elle l'aimait plus que lui ne l'aimait.
Lui, il l'utilisait.
Il l'utilisait, il était dur avec Pauline.
Vous avez tout compris. Non, Pauline, bien sûr, l'aimait. C'est-à-dire que Pauline, à la différence de beaucoup d'autres, enfin en tout cas de ses autres sœurs, avait une gratitude pour ce qu'il lui avait apporté. Elle ne lui en a jamais voulu pour rien. Parce que finalement, si son fils est mort, si le fils de Pauline est mort, c'est qu'il avait attrapé une saleté à Saint-Domingue. Bien sûr, Camille Borghese avait voulu emmener Pauline au zoo en Toscane et qu'elle n'était pas là au moment de la mort de Dermide. Ça, elle en a voulu. Et elle a toujours considéré que tout ce qui lui était arrivé de bon, c'était à lui qu'elle le devait.
Est-ce qu'elle avait, de par sa proximité avec Napoléon, une influence sur lui ou pas du tout, selon vous?
Vraiment, aucune influence politique.
Aucune influence politique.
Vous avez parlé d'influence diplomatique et j'oserais dire que oui, parce que c'est elle qui a fait le premier mariage familial un peu prestigieux. Murat a commencé, bien sûr, il était le grand-duc de Berg, c'était un cavalier prodige. Mais le premier mariage où la famille Bonaparte se hausse, pas encore à la hauteur des cours régnantes, mais tout de même prend sa place en Europe, c'est à la faveur du mariage Borghese. En plus, quand Pauline part pour Rome, Bonaparte se dit que peut-être les relations avec le pape pourraient s'améliorer encore plus qu'après le Concordat. Et d'ailleurs, Pie-VII aura une affection toute paternelle et même un peu partiale vis-à-vis de Pauline. Il la soutiendra toujours jusqu'au bout.
Lui, il avait beaucoup aimé la sculpture.
Le pape, Stéphane.
Il avait même bon goût.
Allez au Vatican, le musée du Vatican est magnifique.
Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de statues dénudées aussi.
En tout cas, merci beaucoup, Florence de Beauzus. Pour tout savoir sur Pauline Bonaparte, je vous recommande, chers auditeurs, de la lecture de ce livre, Pauline Bonaparte, princesse borghèse, qui est paru aux éditions Perrin. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque ces femmes qui ont été quelque peu éclipsées par la renommée de leur aînée. Après Pauline Bonaparte, vous nous parlez, Mathieu, d'une sœur cadette qui a bien failli voler la vedette à sa sœur aînée.
Oui, il fut un temps, Stéphane, on en a parlé dans cette émission, où la haute société anglaise parlait français. Ce temps était visiblement déjà révolu quand, en 1983, Michael Middleton et Carol Goldsmith décidèrent de baptiser leur deuxième fille Pippa. Au-delà de ce prénom audacieux qui a dû lui jouer des tours lors de son année Erasmus à Paris, Pippa sera toujours, aux yeux de Catherine en tout cas, cette sœur plus cool qu'elle. Alors oui, Stéphane, aujourd'hui, ces cadeaux se plongent dans la noblesse anglaise. N'hésitez pas à m'interrompre. Si vous avez un orgasme, j'ai pris du sopalin. Alors, pourquoi lit-on ici et là, plutôt là qu'ici d'ailleurs, que Kate Middleton serait un peu jalouse de sa sœur Pippa et sa faculté à capter l'attention, à attirer toute la lumière? Les chiffres, pourtant, sont clairement en faveur de Catherine, la duchesse de Cambridge. 126 millions d'occurrences Google, alors que Pippa plafonne à 15 millions, devancée par Winnie l'ourson, Pikachu et les chaussures Crocs. Pourtant, c'est bien Kate qui jalouserait Pippa, et ce depuis toujours. Pippa Middleton, de son vrai nom en fait, Philippa, vient au monde le 16 septembre 83 à Reading, au Royaume-Uni, un pays que vous ne connaissez peut-être pas car il se situe en dehors de l'Europe. Ses parents, Michael et Carol, ont fait fortune en créant une entreprise spécialisée dans les accessoires de fête qui fournit en langue de belle-mère et cotillon les personnalités les plus en vue.
YMCA.
C'est donc une jeune fille de très bonne famille qui grandit dans une très belle maison victorienne de Bradfield Southern dans le Berkshire. École privée, pensionnat, Kate et Pippa se suivront jusqu'à l'université en Écosse. Pippa étudie la littérature à Édimbourg, alors que Kate opte pour l'histoire de l'art à St Andrews, là où elle fera d'ailleurs la connaissance du prince William, son futur mari. Alors que Kate est surnommée par ses potes « Princess in Waiting », princesse en attente, Pippa, elle, a hérité du sobriquet de « Perfect Pippa », je traduis, ça va aller, non, là, quand même, on suit. Elle est une étudiante organisée, qui bosse dur, elle est attentive, sympa. On dit beaucoup plus extravertie que sa sœur. Très populaire auprès de ses camarades, elle fréquente un groupe d'amis tous issus de l'aristocratie. Ils se font appeler le gang du château.
Wesh, gros, ça va ou bien ? Tranquille, la famille.
Comme vous, même, Stéphane, Pippa est assez chébrant, elle est grave dans le game, mais ça ne l'empêche pas de rester fidèle aux belles valeurs de la haute société britannique. Parmi ces belles valeurs, évidemment, la chasse à coups. Comme vous, Stéphane, Pippa aime traquer la biche dans le fog humide des bois de Sherwood.
Non.
Sauf qu'elle, elle l'assume. Vous, il vous aura fallu que je vous tire les verres du nez pour que vous avouiez enfin, pensant les micros coupés.
J'ai tiré. Et oui, j'aime beaucoup tirer.
À moins, bien sûr, que vous me fassiez référence à autre chose. Pippa, elle, aime tirer et pas à blanc. Lors d'une partie de chasse en 2008, elle dégomme 23 volatiles.
Quelle horreur.
Est-ce qu'il lui est déjà arrivé de penser à sa sœur Kate en visant une perdrix ? Ça serait mentir que prétendre l'inverse. Car oui, depuis qu'elle l'a s'est promise au prince William, Pippa jalouse un peu sa sœur. Alors parfois, oui, Pippa craque. Petit jeu de mots en forme de private joke pour mon ami le cocaïnoman Lisboète, c'est pour toi ces cadeaux. Elle organise des fêtes dispendieuses. Elle attire de plus en plus la lumière, car celle qu'on surnommait à l'école Panface, ce qui n'est pas très gentil, c'est pour le côté un peu plat, comme une téfale de son visage, elle devient une jeune femme qui plaît, beaucoup. Habituée des événements mondains, elle devient à son tour une personnalité en vue, au point d'être élue en 2008 célibataire la plus attirante par le magazine Tatler, coiffant ainsi au poteau des mannequins et autres célébrités comme le chanteur anglais James Blunt, et aussi le crooner portugais David Kstelopsch. Kate doit bouillir, mais ça ne l'empêche pas de continuer d'afficher une grande complicité avec sa sœur. Ces deux-là font tout ensemble, virée shopping, soins gommants. Elle se partage aussi, figurez-vous, les services d'un bronzeur mobile qui se déplace à domicile pour les asperger de spray auto-bronzant.
J'envoie la sauce.
Ah, la jeunesse dorée. Bref, vous l'avez compris. D'un côté, Catherine, la fifi rangée, propre sur elle, un peu timide. De l'autre, Pippa, la sociable, la dévergondée, la Middleton rock'n'roll. Bref, elle fait honneur à son prénom, résumera avec un rire entendu, un journaliste spécialiste du Gotha, mais pas de l'élégance. Elle est déjà connue en Angleterre, mais c'est le Royal Wedding de sa sœur qui va déclencher une véritable Pippa-mania. Ce jour-là, en effet, Pippa va commettre l'irréparable vis-à-vis de sa sœur, lui voler la vedette le jour de son mariage. Comment ? Eh bien, en sortant de la Rolls au ralenti dans une robe fourreau couleur ivoire signée Alexander McQueen, une robe particulièrement avantageuse qui met en valeur sa silhouette et son... How to say that, my dear, I don't know. Le prolongement galbé de son bas du dos.
Et on voit tout ?
Oui, c'est pire, Stéphane, on le devine. Et là, vous nous avez dit, Stéphane, vous nous avez dit quelque chose, vous nous avez révélé un scoop, ça fait polémique. Hein,
la presse, à l'époque, disait qu'elle avait vu un push-up.
Alors, vous dites la presse. Mais...
Oui, non, mais les tabloïds, oui. Ils ont révélé qu'il y avait un push-up. On peut mettre un push-up pour la poitrine, un push-up pour les
alors,
fesses.
Un push-up fessier, finalement.
Oui, c'est ça, c'est un faux cul. Mais autrefois, on appelait ça des vertus gadins, des faux culs.
Mais les faux culs, c'était vraiment des faux culs. C'était une sorte de banane qu'on se mettait. Sur...
Ouais. Mais oui, alors c'est très bien fait, quand même, si c'en est
un. Super bien fait, oui.
Un superbe faux cul, on peut le dire.
Bon, c'est dommage pour le mari qui l'a épousé.
Oui, qui lui, n'a pas eu droit à cette vision enchanteresse tous les soirs. Donc, elle vole quelque part la vedette à sa sœur.
Ouais,
le cliché fait le tour du monde. Il est désormais dans tous les esprits, même épinglé au format A2 au-dessus du lit d'étudiant de David. Justin Bieber se fend d'un tweet coquin. Quant à Steve Hirsch, qui n'est pas le frère de Martin, mais le boss des productions porno Vivid, il lui propose de jouer dans un de ses films moyennant un cachet de 5 millions de dollars. 5 millions, ça en fait des giclées d'autobronzant, mais à en croire mon historique Pornhub, Pippa a sagement décliné cette offre alléchante. Elle a en revanche empoché gaiement un demi-million de dollars pour un guide du bien recevoir qui se fera étrier par la critique et finira rapidement dans la section prix réduit des librairies. La raison, bien laissez-moi simplement vous citer quelques vrais extraits du livre. Grâce à leur taille généreuse, les dindes sont parfaites pour des repas à plusieurs. Les tiroirs et les placards de rangement doivent servir à ranger tout plein de petits ustensiles. Ou encore, mon conseil préféré, les glaçons se marient parfaitement avec les boissons. Bon, alors soyons honnêtes, il y a aussi des conseils vraiment utiles, hein, comme par exemple cette règle d'or, ne jamais dire du mal d'un invité devant lui, toujours attendre qu'il soit sorti de la pièce. Règle à laquelle ne déroge jamais Stéphane dans notre émission.
Merci beaucoup, c'était super.
Ah merci, c'est adorable, oui.
Merci. Quelle enflure, vraiment.
Oh, évidemment, le livre, évidemment, on ne se permettrait pas. Le livre de Pipa est un échec. À partir de 2016, Pipa s'éclipse peu à peu de la vie publique. La honte de cet ouvrage pourri, non, l'amour plutôt, avec James Matthews, un riche financier pas fanat des flashs des paparazzi. La légende dit qu'il l'aurait séduite en chantant sous son balcon, comme Roméo, les prétendants étant pourtant nombreux, hein, et venant de tout pays. Pipa avait hélas été moins séduite par la chanson de David que par celle de James.
Elle a dit c'est plus qu'elle a
dit. Non, elle n'a pas dit ça, non, non. Lorsque Pipa et James se marient en 2017, la presse n'est pas invitée, et bien que le public s'intéresse un peu au mariage, c'est au tour de Meghan Markle, alors petite amie du prince Harry, d'attirer toute l'attention. La roue tourne à tourner, comme disait Franck Ribéry. Meghan, qui a même décidé de ne pas assister à la cérémonie pour ne pas voler la vedette à Pipa, ça c'est sympa, bon, elle est quand même venue à la réception, parce que personne ne peut résister à un buffet garni champagne à volonté avec des convives bourrés qui vous tiennent la jambe devant le pain perdu avec des vannes de qualité.
Tu connais la différence entre un travesti bulgare et un parapluie anglais ?
On n'a plus le temps, Stéphane, hélas, on la mettra sur Europe1.fr. J'espère en tout cas que nous n'aurons pas froissé la famille royale. Évitons de nous attirer les foudres de l'ambassade du Royaume-Uni. Déjà qu'on doit gérer la plainte du consulat de Turquie suite à vos propos, Stéphane, qui justifie à demi-mot les agissements barbares de Vlad l'Empaleur. C'est vrai que vous préférez, non pas le personnage de Dracula, mais celui qui l'a inspiré.
Vlad, Vlad l'Empaleur. C'est un héros national.
Oui, qui a empalé des gens, qui a fait bouillir d'autres.
On s'ennuyait à l'époque.
Et donc, ça justifie des occupations comme ça,
Stéphane. C'était des Turcs, en plus.
Mais des êtres humains, quand même, Stéphane. Ne l'oublions jamais. Oui. On embrasse l'ambassade de Turquie.
Oui, mais enfin, on a des problèmes en ce moment avec les Turcs.
Oui, c'est vrai, c'est juste. Oui, c'est, ouais. Là, vous avez mis le doigt dessus.
Ouais, enfin, je mets le doigt, je mets rien, vous savez, moi.
Et vous nous avez appris donc, dans une chronique qui était déjà 99% vraie, qu'en fait, il y avait cette histoire de faux cul en plus.
C'est
qu'on
ce qu'on prétend maintenant.
Qu'on nous a berné.
Je ne sais pas, je pense que ça faisait partie de la robe, que c'était... C'est vrai qu'elle...
C'est Alexander McQueen qui avait conçu le faux cul intégré à la
Exactement.
Robe.
Exactement.
Ah, mais c'est différent alors, c'est moins choquant.
Oui, c'est pas choquant du tout.
Elle était rembourrée, quoi.
Elle était rembourrée, mais c'est super, elle était magnifique.
Je connais certains qui portent des caleçons rembourrés aussi. Bref, oui, c'est ça.
Bravo, c'est un très joli portrait.
Il n'y avait rien de faux. Vous qui connaissez bien la monarchie anglaise.
Oui, voilà, c'est pas les dessous de la monarchie, c'est le pas d'à côté, vous voyez.
Exactement.
C'est Pipa Middleton.
C'est Pipa.
Mais c'était très bien. Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour pour renouer avec le présent.
Oui Stéphane, dans cette ultime demi-heure, nous auscultons le passé pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. D'où vient cette expression qu'on emploie, ce plat qu'on s'apprête à cuisiner ou encore ce son enchanteur qui flatte nos oreilles lorsqu'on présente son pass Navigo devant les portes du métro? C'est à toutes ces questions qu'on répond dans une seule demi-heure avec Olivier Pouls, l'expert gastronomique de la bande. Olivier, aujourd'hui, on va fumer un peu de saumon.
Oui, du saumon, mais d'autres choses peut-être aussi. Et puis, je vous donnerai surtout une recette, un ratable pour le faire vous-même, ce fameux saumon qui coûte si cher, c'est long.
J'espère en tout cas que vous ne serez pas à la bourre. Stéphane déteste ça, il est très, très à cheval sur l'étiquette. Mais d'où vient cette expression, être à la bourre ?
Je vous le dis dans quelques instants, là, je suis un peu à la bourre.
On se dépêche tout de suite. David Castello-Lopez qui revient aux origines du post-it.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire continue avec David Castello-Lopez chaque jour. L'origine d'une invention qui nous est bien utile au quotidien.
Oui, les post-it. Les post-it, c'est quand même génial. Non seulement parce que ça permet d'étiqueter les choses. Par exemple, j'ai ici un morceau de mimolette, de vieille mimolette qui date de quand j'ai fait la recette de coquillettes, vous savez, au fromage d'Olivier Pouls. Vous voyez ? Et ben, en fait, là, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais je mets un post-it dessus qui dit vieille mimolette. Voilà, on sait que c'est de la vieille mimolette.
Donc, du coup,
c'est vraiment très très bien. Et en plus, je veux dire, c'est pas tout. Le post-it, ça permet aussi de créer du lien social. Par exemple, si j'ai envie de vous témoigner mon amitié, Mathieu, eh bien, je peux écrire amitié sur un post-it comme je viens de le faire et le coller sur vous. Bon, là, je vais pas coller sur vous parce qu'il y a le Covid, mais je le mets juste à côté
sur
de
la
vous,
vitre qui nous sépare.
Et voyez, et l'information de mon amitié pour vous est transmise de façon super efficace. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'adore les post-it et donc j'ai voulu savoir d'où ils venaient. Et pour le savoir, je suis allé à Minneapolis, dans le Minnesota, qui est une ville qui ressemble vraiment à la plupart des villes américaines moyennes, c'est-à-dire que c'est pas très bien, voilà. Même si ça a produit quand même des gens super, comme par exemple Prince. Prince vient de Minneapolis. J'ai pas trop aimé Minneapolis non plus parce qu'on m'a servi des choses. On m'a servi des gaufres avec des pâtes au fromage dedans et du sirop d'érable par-dessus. Et le serveur, il m'a dit, vous allez voir, c'est super bon. Alors qu'en fait, non, en fait, c'est dégueulasse comme on s'y attend. Voilà. Mais à Minneapolis, il y a aussi deux messieurs qui s'appellent Art Fry et Spencer Silver et qui sont les deux inventeurs du post-it.
Ils sont mis à deux. L'un pour la partie collante, l'autre pour la partie papier.
Ils ont 10 ans d'écart, mais ils ont plein de points communs, et en particulier le fait qu'ils ont tous les deux fait des études de chimie. Et ils ont tous les deux été embauchés par la société 3M, qui est le leader mondial de la colle. Vous connaissez la société 3M.
Oui, bah ça, je peux dire que Stéphane, on a sniffé. Hein. La 3M. Hein.
Est-ce que vous savez,
c'est jeune.
Est-ce que vous savez ce que ça veut dire 3M, d'ailleurs?
C'est le nom des trois fondateurs?
Non. Ça veut dire Minnesota Mining and Manufacturing Company, parce que quand l'entreprise a été créée, il y a plus de 100 ans, au début du XXe siècle, c'était une entreprise qui était dans les mines. Donc les 3M de Minnesota Mining et Manufacturing. Alors Spencer Silver, c'était le plus scientifique des deux, et son travail, c'était de faire des recherches pour trouver des meilleures colles, des colles mieux. Et un jour, il a réussi à synthétiser une colle qu'il a baptisée lui-même colle à microsphère, parce que c'était une colle composée, quand vous la voyez au microscope, de micro-boules de colle. Cette colle, elle colle super fort, mais elle était quand même facile à décoller. Et Spencer, il était content de sa colle, mais il savait pas très bien quoi en foutre. Alors, il a parlé autour de lui, il a dit « Voilà, j'ai fait ce super truc, cette super colle, t'en veux, qu'est-ce que tu peux ?» Et en fait, personne ne voyait vraiment quoi faire. Il a fini par en parler à un type qui s'appelait Art Fry, qui est donc le deuxième de la bande. Et Art Fry, à l'époque, il chantait dans une chorale à l'église et il avait l'habitude de mettre des marque-pages dans sa Bible pour marquer les passages qu'il allait chanter. Sauf que ces marque-pages, ils avaient tendance à tomber. Et un jour, il s'est dit « Mais attends !» La colle à microsphère de Spencer, si je la mets sur du papier, je pourrais le repositionner.
Si je la mets sur du papier, je pourrais le repositionner.
Et c'est comme ça que les post-it sont nés. Le premier paquet de post-it, il a été vendu en 1977 sous un autre nom. Ça s'appelait Press and Peel. Et ça a pris son nom définitif de post-it en 1979. Alors aujourd'hui, 3M en fabrique 50 milliards par an. Ça fait quand même beaucoup plus que d'habitants sur la Terre. Et Art et Spencer se sont devenus un peu des stars dans le domaine de l'invention. Ils ont été élus au Panthéon des inventeurs américains. Et ils sont tout à fait d'accord, d'ailleurs, pour utiliser les post-it pour créer du lien social, comme je l'ai fait avec vous, avec ce post-it amitié. C'est ce qu'ils ont fait avec moi, puisqu'ils ont accepté de coller sur mon visage deux post-it. Sur mon visage.
Sur votre visage.
Un sur lequel il était écrit le mot « amitié ». Et l'autre sur lequel il était écrit le mot respect. J'ai les images pour le prouver, je pourrais les montrer un jour.
C'est un plus beau souvenir. Hein.
Exactement, c'est quand même une belle histoire.
Voilà. Mais on veut les voir sur europe1.fr, ces images.
Je peux vous montrer une photo. Et puis on mettra le lien évidemment vers le tube.
Si je la mets sur du papier, je pourrais le repositionner.
Et puis j'aime bien le goût du détail, parce que derrière on entend le petit truc électro, c'est pensé.
Mais c'est un illustrateur sonore hors norme. Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site évidemment europe1.fr.
Quelqu'un veut ma vieille mimolette?
Non,
ça ira. Merci, mais peut-être Olivier Pouls.
Oui. Ah oui.
Il aime le recyclage. Olivier, aujourd'hui vous nous racontez l'histoire, la folle histoire du saumon fumé.
Oui, rien à voir avec la mimolette, même si j'aime bien la mimolette aussi.
Vous aimez tout, de toute façon. Je les ai vite vus avec vous.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tiens, et si je me fumais un petit saumon? C'est une réflexion qu'on se met souvent quand on rentre chez soi, voilà, après une dure journée de travail, on n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner, on se dit tiens, et si on fumait un saumon? Olivier, vous nous racontez l'histoire de cette tradition, finalement.
Bah, écoutez, vous ne croyez pas si bien dire, parce que je peux vous dire que dans de nombreuses peuplades, de nombreuses familles, dans de nombreux endroits du monde, on se disait le soir, en rentrant, après être allé à la pêche au saumon, tiens, si on fumait les saumons, ça va nous permettre de les conserver, puis de pouvoir en manger durant de longues semaines, alors que peut-être qu'on n'arrivera plus à en attraper. Et c'est vrai que cette technique du fumage, c'est la plus vieille technique de conservation qui existe au monde. Elle remonte au Paléolithique. Nos ancêtres, déjà, avaient découvert qu'en fumant des poissons ou en fumant des viandes, ils se conservaient plus longtemps. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que ça va déshydrater la viande et donc éviter qu'elle ne pourrisse plus rapidement. Et ça va aussi tuer des bactéries grâce au rôle antiseptique de la fumée. Et donc, cette technique de conservation des viande qui est encore largement utilisée dans un certain nombre de peuplades. Vous avez dans le Grand Nord, par exemple, après avoir tué un animal, que ce soit un poisson ou une viande, on fume la viande pour pouvoir la conserver longtemps. Alors, pour ce qui est de la gastronomie française et de l'arrivée de ce saumon fumé sur nos tables, bah c'est, on va dire, à partir du 14e ou du 15e siècle, puisque Guillaume Triel, dans son manuel Taïwan, qui est un grand livre de référence de la cuisine, en parle déjà. Il dit qu'il faut ou cuire ou fumer le saumon. Le saumon est à la table de Charles Quint, qui l'adore. C'est un plat qui est plutôt un plat, on va dire, réservé à une certaine noblesse ou une certaine élite en tout cas, mais il va devenir très populaire, notamment en France chez nous, grâce à un personnage, et je pense que Stéphane sait de qui il s'agit.
François Ier ?
Non.
Non. Il s'est foutu de votre gueule.
Robert Labeyry.
Ah ben oui, je l'ai cité tout à l'heure.
Eh ben oui, exactement, mais oui. Vous aviez vu juste, c'est... Robert
oui,
Labeyry.
Parce que je disais, c'est M. Labeyry qui l'a fait fumer, parce que c'est la marque.
Donc vous le saviez finalement, mais pourquoi vous avez dit François Ier alors?
Parce que je pensais que c'est un personnage illustre.
Ah oui,
là.
D'accord.
C'est Labeyry qui a cette méthode.
Il invente ni la méthode ni le saumon, mais en tout cas, il va créer une société au lendemain de la guerre qui va permettre de fumer de manière plus industrielle le saumon et surtout de le mettre dans les rayons des supermarchés et faire de ce produit qui était un produit élitiste et cher, un produit beaucoup plus accessible. Alors avec malheureusement les dérapages qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on s'est jeté à corps perdu dans l'élevage des saumons, que ce soit en Norvège, en Finlande ou en Écosse, avec malheureusement l'utilisation technique peu recommandable. Et donc aujourd'hui, le saumon sauvage est devenu très rare. On en trouve encore un tout petit peu, mais c'est souvent du saumon d'élevage qui est utilisé. Et le saumon fumé reste un produit plutôt festif, plutôt de luxe, mais abordable. Mais si vous voulez qu'il soit encore plus abordable, je vais vous donner deux petites astuces pour le réaliser vous-même, figurez-vous, et vous pourrez le tenter.
Alors dites-nous comment on fait.
Alors la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord saler son saumon. Donc on va prendre un beau filet de saumon d'environ 1,5 kg, on garde la peau. L'idéal, c'est de l'avoir congelé avant, parce que comme il va pas vraiment cuire, pour éviter qu'il y ait certaines bactéries qui se développent dedans, le fait de le congeler va permettre d'avoir un saumon, on va dire, plus safe en termes de risque bactériologique. Alors, on va prendre du gros sel, 1 kg de gros sel. Il faut un mélange de 5 baies, vous savez, qu'on trouve assez facilement. 15 grammes de sucre. On va mélanger tout ça et on va en tartiner notre saumon qu'on va filmer, donc emballer dans un film alimentaire, évidemment, et mettre au réfrigérateur pendant au moins 12 heures. Et ce sel va s'imprégner, évidemment. On va le débarrasser. On va enlever le sel. On va passer le saumon sous l'eau pour vraiment ôter l'excès de sel. Et là, on va pouvoir le fumer soi-même avec un petit fumoir qu'on va bricoler à la maison. Et c'est très facile à faire. Vous prenez un wok, par exemple, ou vous prenez une cocotte dans laquelle vous posez à mi-hauteur une grille. Et en dessous, vous versez dedans environ 200 grammes de cire de bois. Alors la cire de bois ça s'achète aujourd'hui dans pratiquement tous les magasins de cuisine. C'est devenu très très courant et très facile à trouver. C'est ça qui va donner le goût, évidemment. Vous mettez le feu à cette petite cire de bois, ça va dégager de la fumée. Vous posez le saumon, vous fermez et vous attendez 4, 5, 6 heures, de manière à ce que le saumon s'imprègne de cette odeur de fumée.
Il faut rester à proximité, il ne faut pas partir faire une course quand même.
Non, parce que le feu va s'éteindre, il va s'étouffer. Ah. Et c'est bien ça l'intérêt, c'est qu'évidemment, comme vous savez très bien que quand on prive un feu d'air et d'oxygène, il s'étouffe. Oui, donc le feu va s'étouffer, il va fumer, la sûre va dégager de la fumée, et c'est cette fumée qui va tranquillement s'imprégner dans la chair du saumon. Et si vous ne voulez pas utilisez le petit fumoir dont je vous parle. Il y a une autre astuce, c'est que vous utilisez aussi du thé fumé, du lapsang souchang, que vous mélangez dans le petit mélange sel, épices, sucre dont je vous ai parlé. Et ce thé va donner à votre saumon un goût de fumée sans pour autant que vous ayez besoin de le fumer.
D'avoir fumé vraiment.
Ah, c'est pas mal, c'est marrant.
C'est bien ça.
Ça, c'est une autre technique qui vous pourrit pas l'appartement ni les relations avec vos voisins.
C'est génial.
Très bonne astuce. Merci beaucoup, Olivier Pouls. On retrouve toutes vos recettes et toutes vos petites combines sur le site d'Europe1.fr. L'heure est venue d'écouter le mot de la fin. L'expression « je suis à la bourre ».
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Moi, c'est une expression personnellement que je ne connais pas étant suisse, donc d'un point de vue atavique, je ne peux pas la connaître. Être à la bourre, ça vous arrive, vous français, assez souvent, je crois. Hein,
oui,
Stéphane.
Absolument, être à la bourre. Mais d'où vient cette expression, Mathieu ? Eh bien, de l'argot. Et c'est vrai qu'en examinant la formule, on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette bourre?
Oui, tu vois,
je vous rassure, cette chronique restera convenable parce que c'est dans mon contrat.
Eh bien, écoute, je compte sur vous pour rester convenable, Stéphane.
Bien sûr. Alors, être à la bourre vient en fait d'un jeu de cartes originaire du sud de la France qu'on appelait la borra. Le principe est simple, tous les joueurs misent au commencement la même somme d'argent. Et ceux qui n'arrivent pas à faire de pli doivent passer à la caisse avec une dure réalité pour les malchanceux. Plus la partie avance, plus ils doivent débourser d'argent pour remporter la mise et rentrer dans leurs frais. Ceux qui sont en retard sur les autres joueurs sont donc à la bourre. Autre explication possible et complémentaire, bourré au début du XXe siècle voulait dire bloqué. Celui qui est bloqué dans les embouteillages, dans le métro ou par un impondérable, devenait d'abord pressé, puis franchement à la bourre. La bourre, c'est également, vous savez, le poil fin et serré du pelage de bien des mammifères qui leur permettent d'être protégés du froid. On appelle également la bourre le duvet, qui n'est pas sans rappeler aussi d'ailleurs notre malheureux joueur à la bourra quand il se fait plumer, mais aussi par exemple on parle de la bourre d'un tapis pour montrer... Combien c'est serré les nœuds. Être à la bourre, être en retard, eh bien voilà, quittons-nous sur ce bon mot d'Alphonse Allais. Si vous arrivez en retard, dites que vous n'êtes pas le premier venu.
J'y penserai, mais ça ne m'arrive jamais. Mais c'est vrai. Vous êtes parfois en retard, vous, ça vous arrive?
Ça
vous
arrive malheureusement. Mais oui, on essaye surtout quand on a une émission quotidienne de 16h à 18h.
Oui. Écoutez, un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, l'émission toujours à l'heure, s'achève. Il était consacré à ces sœurs qui ont été un peu écrasées par la personnalité ou la célébrité de leur aîné. Vous, les amis, est-ce que vous êtes des fils uniques ou vous avez dû composer aussi avec des frères et sœurs plus célèbres que vous, plus talentueux?
Moi, j'ai un frère plus talentueux, mais je suis moins célèbre que lui.
Ah, bien joué, vous l'avez bien arnaqué. Et vous, David ?
Moi, j'ai une sœur qui n'est pas plus célèbre que moi, mais elle est très bien. Non, pas de rivalité particulière.
Pas de rivalité ?
Non.
Ah, c'est très à moi, vous l'aurez compris.
Je suis unique.
Et oui.
Vous avez tous les avantages.
J'ai vraiment tous les avantages et tous les défauts qui vont avec.
Alors, demain, vous ferez connaissance avec Suzanne Noël. Ah. Peut-être trop âgée pour être votre sœur, il est vrai. Quoi qu'il en soit, on réunit trois dames qui ont fait de la chirurgie esthétique. Suzanne Noël, donc, qui en a fait dans les tranchées en tant que médecin, hein, en fait. Elle était l'une des pionnières à réparer les gueules cassées, puis Marilyn Monroe qui a eu recours aussi à la chirurgie.
Je n'ose y croire. Et Jocelyne Wildenstein, femme chat. Un chat qui a un poil abusé, vous verrez.
À la fin, son mari ne pouvait plus l'avoir en peinture, lui qui avait une si belle collection. À demain, Mathieu, à demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.